Mon nom est Marie-Chantal Germain et j'anime Cursus Plus, un balado spécifiquement dédié aux étudiants de cycle supérieur qui traitent de différents sujets. Le balado d'aujourd'hui est réalisé en collaboration avec le décanat de la recherche et de la création dans le cadre de la toute première semaine de la conduite responsable de la recherche. J'ai donc travaillé en étroit partenariat avec Sarah Mehini, coordonnatrice au décanat de la recherche et de la création. Leur but? Partager les enjeux qui sont de plus en plus émergents en matière de conduite responsable en recherche. Et sont aussi soucieux de sensibiliser l'ensemble de la communauté de l'UCO aux défis que peuvent représenter la gestion de l'intégrité en recherche au quotidien. La communauté étudiante des cycles supérieurs, le corps professoral et les employés sont des acteurs de premier plan pour assurer une relève impliquée en recherche. J'ai rencontré Catherine Séguin, bibliothécaire à l'UCO, pour lui parler d'un phénomène inquiétant pour la communauté scientifique, les revues prédatrices. Tout d'abord, j'ai demandé à Catherine de m'expliquer ce que c'est exactement puis pourquoi le phénomène est aussi préoccupant. Avant de me répondre, Catherine me parle de la raison qui a fait naître le phénomène. En gros, il existe un système d'oligopole qui est détenu par trois grands joueurs dans le monde de l'édition. Elsevier, Wally Blackwell et Springer. À eux trois, ils détiennent 50 % des ressources documentaires, ce qui leur permet aussi le luxe de gonfler les prix des publications qui sont nécessaires pour bâtir la carrière d'un chercheur.
Ces oligopoles imposent des coûts exorbitants aux universités pour donner leur accès aux bases de données, à la littérature scientifique. Cette littérature scientifique est produite par les chercheurs que les universités paient. Les universités sont prises en otage puisque pour publier, leurs chercheurs ont besoin d'accéder aux bases de données. Même que dans la dernière décennie, les chercheurs doivent payer pour être publiés. Donc, l'université est confrontée à trois paiements. Ils paient pour accéder aux ressources, ils paient leurs chercheurs pour faire de la recherche et doivent payer, ou le chercheur a même ses fonds de recherche payés, la revue pour publier à l'intérieur. Donc, on repère trois fois pour produire et accéder à la science. C'est un système où les plus riches universités ont les moyens de publier davantage. Donc, c'est un système où c'est le pouvoir économique qui donne le succès en publication. Si on ne publie pas, on n'existe pas. Le fameux « publish or perish ».
À ce modèle très capitaliste, s'est greffé un mouvement de gauche, souhaitant un accès sans frais au savoir scientifique dans le but justement de faire avancer les recherches, mais en conservant la rigueur scientifique. C'est donc un modèle de qualité qui est offert gratuitement puis qui est accessible à tous sur le web. C'est ce qu'on appelle une publication en libre accès.
Le libre accès, la première réponse au modèle capitaliste de la publication scientifique, c'est, d'une certaine façon, la bonne réponse qui permet d'accéder plus à la science, qui permet à plus de gens de réaliser des travaux de qualité scientifique et de finalement publier. On conserve la qualité des articles scientifiques en ayant un comité de lecteurs digne de ce nom. Si bien que les organismes subventionnaires canadiens ont adhéré au libre accès et demandent aux chercheurs canadiens de déposer en libre accès leurs recherches, par exemple dans le dépôt institutionnel de l'UCO, de façon systématique après un an de publication dans une revue, par exemple, traditionnelle. Donc, si la revue n'est pas déjà en libre accès, le chercheur se doit de déposer dans un dépôt institutionnel ou de publier à nouveau si le premier éditeur est d'accord, dans une revue en libre accès pour favoriser l'accès à la science et pour favoriser de nouveaux travaux scientifiques.
Donc, maintenant qu'on comprend les faiblesses du modèle, on comprend mieux comment les revues prédatrices ont pu se faufiler dans le paysage de la recherche scientifique puis se tailler une place malgré le manque de rigueur associé à leur publication.
La revue prédatrice est une société qui se fait passer pour un périodique scientifique reconnu et tente d'obtenir de l'argent des auteurs-chercheurs pour publier. Par exemple, le nom de la revue ressemble au titre d'un périodique reconnu. Ou encore, le nom du directeur de la revue qui vous sollicite est étrangement un homonyme d'une sommité de la discipline.
Il y a environ 20 ans, un gastro-entérologue britannique du nom d'Andrew Wakefield publiait un article qui faisait le lien entre le vaccin rougeole-oreillon-rubéole et l'apparition de l'autisme chez les enfants. C'est encore à ce jour l'une des croyances en lien avec les publications d'une revue prédatrice les plus répandues. Par la suite, une énorme communauté de chercheurs s'est mise à étudier le lien, puis les résultats n'ont jamais été concluants. On s'est même rendu compte que l'étude contenait des erreurs, mais aussi que l'auteur avait triché sur les cas, parce qu'il représentait les parents qui voulaient poursuivre la compagnie de vaccins.
En fait, c'est de la fausse science. C'est de la science de moins bonne qualité qui n'a pas fait qui n'a pas subi le comité de lecteurs. Donc, dans une revue prédatrice, Le chercheur soumet son article et on lui promet de le publier rapidement. Dans un périodique traditionnel, ça prend 18 à 24 mois. Et là, en quelques mois, il a une publication de plus à son CV et l'article peut être lu et cité. Donc, il est dans le système de la publication scientifique. Par contre, le raccourci, c'est le comité éditorial. Donc, possiblement que certains articles sont de très bonne qualité, mais que d'autres auraient mérité certains commentaires, d'être retravaillés à certains égards.
Ce phénomène-là, il existe, mais rares sont ceux qui vont se vanter d'être tombés dans le panneau. J'ai rencontré un étudiant d'une université québécoise candidat au doctorat. À sa demande, j'ai changé son nom puisqu'il souhaitait garder l'anonymat. Mathieu est donc en toute fin de parcours au doctorat, mais il est très jeune. Il se fait donc approcher par une revue pour publier un article. L'éditeur frauduleux connaissait son nom, connaissait même une bonne partie de son sujet de recherche, puis comme si le hasard faisait bien les choses, c'est justement le sujet de l'heure, puis on cherchait quelqu'un qui avait une avancée scientifique sur le sujet. Heureusement, dans le cas de Mathieu, il en a discuté avec son directeur, puis il a vite réalisé que c'était pas très crédible. Quand je lui ai demandé la raison pour laquelle son témoignage restait anonyme, il a souri timidement, puis il m'a confié qu'il avait honte de s'être laissé berner. Même si au final, il n'est pas allé jusqu'au bout, il sentait qu'il avait failli à sa rigueur de scientifique. Il dit qu'avec l'expérience, il ne porterait plus aucune attention à un courriel comme ça aujourd'hui, mais qu'à l'époque, ça l'avait même un peu flatté. Ce qu'il faut retenir de l'histoire de Mathieu, c'est qu'il a fait la bonne chose. Il s'est informé, d'où toute l'importance de la rigueur avant de publier. Catherine me parlait aussi des indices à considérer pour identifier rapidement les fameuses revues prédatrices. Souvent, le périodique est petit. On en a rarement entendu parler, puis on demande un paiement pour publier, mais un petit paiement. Quelque chose qui avoisine les 50-100 $ plutôt que les montants plus importants qui sont habituellement exigés pour les périodiques reconnus.
C'est le rêve, se faire offrir des opportunités, surtout en début de carrière de recherche. C'est si difficile de se démarquer. Et là, on a une opportunité. Puis des fois, même quand ça nous effleure l'esprit que c'est presque trop beau pour être vrai, on se dit « ben, je vais quand même être dans le moulin de la publication. Ça va pareil sortir, puis ça va peut-être me donner l'occasion de publier dans des plus grandes revues, dans des meilleurs endroits, même si on a un doute, parfois sans se douter des conséquences que ça peut avoir sur une carrière. Donc, d'être étiqueté comme un chercheur frauduleux, par exemple. On ajoute que ça ne sera pas très long avant d'être publié. Souvent, on promet même une date de publication avant même que le comité de lecteurs ait sanctionné la qualité du document. La révision est quasi inexistante, finalement. L'acceptation est quasi assurée aussi. Et enfin, ces revues-là ne sont pas répertoriées dans les répertoires connus comme Journal Citation Report ou le Scopus qu'on a à l'UCO qui indexe les revues reconnues. Pour reconnaître une revue en libre accès qui serait une revue prédatrice, il y a des index de ça. Par exemple, vous pouvez sans doute consulter le décanat de la recherche et vous faire orienter sur les listes officielles de revues prédatrices ou encore consulter votre bibliothécaire qui a une grille d'analyse systématique pour déceler les revues prédatrices, les maisons d'édition de livres prédateurs ou frauduleux, ainsi que les congrès prédateurs. Parce que de plus en plus, vous recevez des offres de participer à des congrès qui sont parfois inexistants. Souvent, comme publié dans une revue prédatrice, ça coûte moins cher, c'est alléchant. Par exemple, pour un 3 jours de congrès, 200 $, c'est une aubaine. Par ailleurs, s'il n'y a pas de congrès, c'est gaspillé. Pour aider nos étudiants à se retrouver dans ce modèle-là, généralement, c'est une revue en libre accès qui n'est pas détenue par un éditeur reconnu. Souvent, c'est des petits éditeurs un peu obscurs. D'abord, s'ils sont sollicités pour publier, c'est que ce n'est pas un périodique traditionnel. Les périodiques traditionnels font des appels d'offres, des appels de soumission. Ils ne sollicitent pas individuellement dans leur courriel les chercheurs.
En terminant, je vais laisser Catherine nous expliquer comment on fait pour déposer un titre en libre accès, notamment sur le site de l'UCO.
La façon la plus simple de déposer un article en libre accès, c'est de contacter votre bibliothécaire qui va vous indiquer la marche à suivre pour octroyer les droits de diffuser sur le dépôt institutionnel de l'UCO.
Heureusement, de plus en plus de chercheurs sont au fait de la présence des revues prédatrices dans le paysage de la publication scientifique. Valider les sources et s'assurer de la rigueur de la science et de l'information, c'est le devoir de tous et chacun. En tant que chercheur, mais également en tant que consommateur, pour s'assurer de partager de l'information qui est juste et vérifiée. Pour obtenir plus d'informations sur le contenu du balado d'aujourd'hui, n'hésitez pas à consulter uco.ca/recherche. En terminant, je souhaite remercier Catherine Séguin, bibliothécaire, ainsi que Sarah Mehini, coordonnatrice au décanat de la recherche et de la création, pour leur participation. Cet épisode du balado Cursus Plus a été réalisé grâce à la participation financière de Desjardins.